Donc, deuxième séquence sur le thème de l'Alliance. La première partie avec les livres de la, enfin, les chapitres de la Genèse. On avait vu deux rituels d'Alliance. Le premier, c'était le fait de couper des animaux en deux et de passer à travers les morceaux d'animaux. C'était ce qu'on appelle un rite imprécatif. Les deux personnes qui contractent l'Alliance s'engage à respecter les termes de l'Alliance, et si jamais l'un des deux ne respecte pas les termes de l'Alliance, eh bien on considère qu'il finira comme ces animaux coupés en deux. Certains textes du Proche-Orient disent même que la patte de l'animal est dans la gueule de l'animal coupé. Bon. L'autre rite, avec la version sacerdotale en Genèse 17, c'était de dire qu'on établissait une alliance, qu'on dressait une alliance, c'était le mot « koum », dresser, et le signe pour cela, c'était la circoncision. Et la circoncision était donc le signe de l'entrée dans l'alliance, un signe qui ne vaut évidemment que pour les garçons. Ici, avec le livre de l'Exode, donc on se situe de l'autre côté par rapport au récit du séjour en Égypte. Et on va voir un nouveau rituel qui a l'intérêt d'être moins machiste et qui en même temps présente un sous-texte pour la célébration de la scène. On va voir que la célébration de la scène, contre toute attente, peut s'appuyer sur ce récit d'Exode 24 pour une part. Le récit de la scène, on le verra dans deux séquences, et donc je vous montrerai qu'il y a aussi un autre sous-texte encore plus important. Et là, ça va nous permettre d'aborder le rituel sacrificiel, en fait. Et on va pouvoir aborder, peut-être de manière trop superficielle, mais quand même, le sens du sacrifice dans l'Ancien Testament, qui correspond assez peu à l'idée que la majorité d'entre nous s'en font. Donc, nous avons notre texte Exode 24. On va prendre tout le chapitre. On va le prendre verset après verset. Donc, comme d'habitude, hein, je prends les versets. Je vous rends attentif à quelques éléments du texte hébreu quand c'est nécessaire. Et puis, on a la liberté de s'interrompre, de poser des questions, des commentaires. Voilà. On est entre nous, en quelque sorte. Bien. Donc, le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Il est dans le désert, du côté du Sinaï, et le texte nous dit « Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Alors quand on regarde le texte hébreu, il peut y avoir une sorte d'incertitude sur qui dit quoi. Il y a le premier mot, vous voyez, c'est comme ça. Alors, c'est où elle. On repère ici elle, qui veut dire Dieu, c'est le nom commun, Dieu, elle. Et on voit qu'il a un trait d'union avec Moshe, donc Moïse. Où elle, Moshe, Amar. Alors, ça a été traduit par et Dieu dit à Moïse. Mais si on avait une construction plus cohérente, on aurait Wayomer elle, donc et Dieu dit à Moshe, donc le Moshe par exemple. Donc là, on a l'impression que c'est vers Moïse que dit, et donc on n'a pas de sujet. Il y a une ambiguïté en tous les cas. L'ambiguïté est d'autant plus forte que, un petit peu plus loin, on voit que ce qui est demandé à Moïse, c'est « monte vers l'Éternel ». Donc c'est « monte » et « vers l'Éternel », vous savez, c'est le tétragramme « Yahou ». C'est une façon de le prononcer, même si ça ne se prononce pas. Et donc on a en fait le nom commun de Dieu et le nom propre de Dieu dans la même phrase. Et c'est bizarre d'avoir une phrase où Dieu dirait à Moïse de monter vers Dieu. Vous voyez ? On attendrait plutôt à ce que Dieu dise « monte vers moi » éventuellement. Donc, il y a cette ambiguïté grammaticale qui pourrait laisser entendre qu'une voix s'adresse à Moïse et lui dise « monte vers l'Éternel », donc « monte vers le nom propre de Dieu ». Et le nom propre de Dieu, on le sait avec Exode 3, quand il y a cette vision du buisson ardent, ça se construit essentiellement sur le verbe « aya » qui signifie « advenir ». C'est un rapport avec l'être. Donc, premier élément, c'est qu'il y a une sorte d'indétermination sur celui qui est à l'origine de cet ordre adressé à Moïse. Et puis on a un verbe qui est très important, et c'est celui qu'on va retrouver beaucoup dans ce texte, c'est le verbe « Allah ». « Allah », ça signifie « monter », et on retrouve la « al » qui veut dire « sur », donc c'est le fait d'aller au-dessus d'eux. Et alors c'est un verbe qui va être très important parce que « Allah », ça veut dire aussi bien « monter » que « sacrifier ». Et vous l'entendez dans le mot holocauste. L'holocauste, c'est le fait qu'on fait monter le sacrifice vers Dieu, et en fait on le fait monter intégralement. C'est la raison pour laquelle, quand les commentateurs s'intéressent à l'épreuve d'Abraham qui doit sacrifier son fils Isaac, certains disent, en fait, c'est que Abraham a mal compris l'ordre qui lui a été adressé. Parce que sacrifier, c'est le verbe monter. Et donc, des commentateurs disent, en fait, Dieu demande à Abraham de faire monter son fils Isaac, et Abraham comprend qu'il faut le sacrifier. C'est une lecture qui atténuerait un peu la responsabilité d'Abraham. Mais c'est un texte qu'on avait vu il y a 2 ans. On peut aussi considérer que l'ordre est bien de sacrifier son fils, et dans ce cas-là, c'est une autre pédagogie qui est à l'œuvre, mais ce n'est pas l'objet de notre texte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Moïse qui doit monter, vers l'Éternel, et il y a la possibilité de comprendre sacrifier, parce qu'ensuite il sera question de sacrifice aussi. Après tout, pourquoi choisir l'un des deux sens? C'est qu'en fait, on a un texte qui va rassembler en un seul passage une histoire de sacrifice et une histoire de montée sur le Sinaï. Donc, c'est un ordre qui est donné à Moïse, à Aaron qui est prêtre, avec Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. C'est le moment où l'on voit qu'il y a un groupe qui va être chargé de représenter Israël. C'est pas... En fait, tout le peuple va être présent par l'intermédiaire de représentants, de délégués. C'est le conseil presbytéral, en fait. Presbytéros, c'est l'ancien, donc c'est les conseils presbytéraux qui vont représenter la paroisse pour le grand raout divin. Ensuite, alors bien sûr, dès que vous avez des remarques ou des questions, on y va, faut pas hésiter. Ensuite, on précise que Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Donc là, on a, avec Louis II, c'est la traduction, une bonne traduction sur l'usage des mots « Dieu » et « éternel ». Donc, vous retrouvez « éternel », c'est le 1, 2, 3, 4, 5e mot en hébreu. Et « ne s'approcheront pas le peuple » et « ne monteront pas avec lui ». Donc, on a un collectif qui dirige les verbes. Donc, on voit qu'on a une sorte de fusée à 2 étages. Il y a le peuple qui est représenté par Moïse et les anciens. Et puis ensuite, il y a juste Moïse qui va faire office de médiateur. Donc, verset 3, Moïse 20, et on retrouve notre verbe « sefer ». On l'avait vu la fois dernière avec Abraham, parce que en Genèse 15, Abraham devait sortir et compter les étoiles. Et « sefer », je vous avais dit que c'était aussi bien compter que raconter. Et donc ici, on retrouve ce mot-là, Moïse qui doit compter ou raconter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Et les paroles, ici, c'est le verbe « dabar ». Dabar, dont je vous avais dit que c'est plutôt une parole en forme de loi et de décret, par opposition à Amar, qui est plutôt une parole d'ouverture et de création. Dans le récit de la Genèse qui parle de la création, on utilise le verbe Amar, Wayomer Yahou, alors que là, Dabar, c'est plus une parole qui pose les limites, si je devais caricaturer un petit peu. Et vous avez ensuite la traduction « toutes les lois ». En hébreu, c'est le verbe « shafat », et en fait, « shafat », c'est « juger ». Donc, c'est, on pourrait dire, les jugements, en quelque sorte. Les paroles qui font droit à. Et tout le peuple répondra donc d'une voix une, d'une seule voix. Et ils diront tous les décrets qu'a décrété l'Éternel, nous ferons. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouvera la fois prochaine avec Josué 24, qui va développer la participation du peuple. Alors que là, le peuple est quand même réduit à très peu de choses dans ce texte. C'est un texte qui met en évidence les procédures de médiation, les 70, puis Moïse. Donc c'est un texte qui pose qu'il y a des intermédiaires légitimes. Alors qu'avec Josué, on va être dans une logique beaucoup plus, on pourrait presque dire, républicaine, au sens où c'est l'ensemble du peuple qui est responsable de la chose. Alors ensuite, le verset 4, on a Moïse qui écrit toutes les paroles de l'Éternel. La question c'est, qu'est-ce qu'il écrit en fait, au sens formel du terme? En chronologie absolue, on serait en moins 1300 grosso modo. Une époque où l'hébreu n'existe pas encore. On a de l'ougaritique qui vient de sortir au sud Liban. C'est une langue cunéiforme et alphabétique, ce qui est un progrès par rapport aux langues syllabiques. C'est assez proche de ce que sera l'hébreu ensuite. Et on écrit sur des tablettes en argile. C'est pour ça que c'est en cunéiforme d'ailleurs. Donc, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. On peut se dire qu'il les écrit sur des tablettes, éventuellement. Ce qui n'est pas forcément très évident dans le désert, parce qu'il faut trouver de la terre glaise pour cela.
Et humide.
Mais il fallait bien qu'il trouve un peu d'eau de temps en temps pour survivre.
Non.
Mais il y a quand même de la végétation dans le Negev. Il y a une autre hypothèse, c'est de voir ce qui se passe un peu plus loin dans le livre de Josué. C'est au chapitre 8, enfin en tous les cas selon le texte canonique. On va voir qu'il y a un rapport avec ce qui se passe là. Au chapitre 8, donc, il y a la prise du village qui s'appelle Aï. Et à la fin, il y a un petit passage à partir du verset 30 qui en fait n'est pas à sa place. C'est-à-dire quand on regarde la Septante, il place ce verset dans le chapitre suivant. Et quand on regarde un manuscrit de Qumran, c'est 4Q Josué A, en fait ce passage est en Josué 5, à la fin de Josué 4, juste après le passage du Jourdain. Et donc c'est un récit qui va parler d'un rite d'alliance où Moïse crée un autel, et je vous lis très rapidement, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi. Un autel de pierre brute sur lesquelles on n'avait pas brandi le fer. Donc ça, c'est l'idée qu'on essaie de représenter un petit Sinaï, et donc il faut qu'il y ait une dimension naturelle, et donc il ne faut pas que ce soit taillé. Ils y présentèrent des holocaustes à l'Éternel, donc c'est les sacrifices complets, et ils offrirent des sacrifices de communion, c'est des sacrifices pacifiques, où on verra comment ça se débrouille. Et là, il écrivit sur les pierres un double de la loi que Moïse avait écrite en présence des Israélites. Donc on peut imaginer que Moïse écrit sur la pierre. Alors comment on fait pour écrire sur la pierre ? L'hypothèse, c'est qu'on recouvre la pierre de chaux, une sorte de crépi qui permet de pouvoir graver plus facilement. On met une couche par-dessus la pierre et on gratte cette couche-là parce qu'évidemment, la pierre risque de ne pas être très calcaire et donc pas très malléable. Donc Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. On peut imaginer qu'il l'écrive sur des pierres, d'autant que le verset continue de la manière suivante. « Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. » Donc on a peut-être ici la mémoire de ce geste-là.
À ce moment-là, les pierres restent sur place.
Oui.
Enfin,
on n'a pas précisé quelle est la taille des pierres. Vous savez, le prêtre porte les 12 pierres d'Israël sur son pectoral. Donc c'est les petites pierres, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle un joyau. Et certainement, le pectoral avec les 12 pierres va faire référence à ces 12 pierres-là, hein, puisqu'il y a une pierre pour chaque tribu. Et on va voir ce qui va se passer sur ces pierres-là, justement. Aujourd'hui, il n'y a plus de grand prêtre. Depuis la destruction du temple, en fait. Le temple reconstruit, on pourrait imaginer un nouveau un culte sacrificiel avec grand prêtre, etc. Là, ce n'est pas le cas, mais souvent, quand vous voyez des représentations du grand prêtre, en principe, il a un carré avec 12 pierres, ce qu'on appelle le pectoral, l'éphode. Il bâtit un autel au pied de la montagne. En fait, c'est sous la montagne, littéralement. Tarat, c'est sous la montagne. C'est plus logique de traduire par au pied. Mais il faut se dire qu'en fait, il y a une sorte de contraste entre le fait que l'autel va être sous la montagne et qu'à la fin, Moïse va être sur la montagne. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être en contraste entre le tout en dessous et le tout au-dessus. On peut se demander si la montagne est vraiment une montagne. On peut se demander si la montagne n'est pas une métaphore de ce qu'est en fait l'installation du temple. C'est-à-dire que ce texte n'est pas rédigé au moment où les événements sont censés se passer. On peut même considérer que les événements ne se sont pas passés tels quels. Donc on est plutôt dans un récit qui est en train d'instituer le fonctionnement du temple, et on pourrait même se dire du deuxième temple. C'est-à-dire non pas le temple de Salomon, mais le temple au retour de l'exil de Babylone. Ça c'est dans l'hypothèse où ces récits font partie de cette littérature composée après l'exil à Babylone, au VIe siècle. Oui.
Sur les 12 pierres, ça peut étonner un peu parce que normalement, surtout dans les livres historiques, prophétiques, les Matzevot sont plutôt utilisés dans les cultes païens. Et ici, le texte les rapproche sans faire un grand problème.
Oui. Par exemple, je pense que dans Josué, ça doit être Banim. Hein, c'est les pierres telles qu'on va les trouver d'ailleurs sur l'éphod. Matseba, à mon avis, ça se rapporte au fait que, en France, par exemple, on a d'une part les menhirs, d'autre part les dolmens. Et Matseba, ça serait en fait les dolmens organisés en construction. Ça constitue un ensemble architectural pour le culte, avec une sous-couche païenne ou quelque chose comme cela. J'aurais tendance à dire, pour aller dans le sens de votre remarque, que les textes bibliques s'efforcent d'évangéliser les pratiques païennes. Et on utilise le culte domestique comme base rituelle propre à chacun, et on le décale un petit peu pour en faire quelque chose qui nous semble plus juste par rapport à nos convictions. Mais oui, oui effectivement, c'est intéressant de noter qu'on a Matseba comme terme utilisé. Et ce qui peut être aussi utile pour votre culture générale, pour le futur Trivial Poursuite biblique qui sortira peut-être un jour, c'est que le verbe sacrifier, en fait, il y a un terme plus générique que Allah. Allah, c'est quand on sacrifie tout, c'est pour faire un holocauste, mais sinon, c'est Zabar. Donc, Zabar, c'est sacrifier, et l'autel, en fait, c'est Mitzbar. En fait, c'est... Oui, c'est vraiment lié l'un à l'autre. Et je vous avais dit que la loi sur l'autel, la loi sur le mitzbar, on le trouvait dans le passage entre Exode 19 et Exode 20, juste avant le décalogue, et que c'était un texte qui, en hébreu, était écrit avec autant de mots que la valeur numérique du mot mitzbar. Donc, ça ne dégage pas un sens caché ou un sens secret, c'est juste pour vous montrer que les scribes avaient l'habitude d'utiliser des règles formelles pour vérifier que les textes avaient été bien copiés. C'est juste pour dire qu'il y a une cohérence entre le fond et le forme, entre le fond et la forme. Donc si vous regardez la loi sur l'autel, sur le mitzbar, en hébreu, il y a autant de mots que la valeur numérique de la gématria. Où on retrouve le fait qu'il ne faut pas brandir l'épée sur l'autel, qu'il ne faut pas mettre de degré pour éviter de révéler la dignité du prêtre, etc. Pas de marche. Là. Ce qui laisse entendre que le prêtre était en jupe courte. Ce qui pose. Il paraît que, je vais dire les Égyptiens, peut-être, mais il paraît que les Écossais également. Bon, mais par les temps qui courent sur les questions des tenues vestimentaires des hommes et des femmes, voilà. Ce sont des textes qui pourraient poser problème à beaucoup de personnes. Donc, il bâtit un hôtel sous la montagne. Il dressa donc les 12 pierres pour les 12 tribus. Et ensuite, il envoya donc des jeunes hommes. Des enfants d'Israël pour sacrifier des holocaustes et enfin pour j'allais dire holocauster des holocaustes et pour sacrifier des sacrifices pacifiques à l'Éternel des taureaux. Donc ce qu'on a comme des sacrifices d'action de grâce, en fait, c'est un terme plus intéressant en hébreu parce que c'est shelamim. Et Shulamim, on entend Shalom, la paix. Et du coup, c'est la raison pour laquelle certains traduisent par des pacifiques, des sacrifices pacifiques en quelque sorte. Alors, juste, je fais une petite aparté sur le régime sacrificiel, qui va être utile ensuite pour la compréhension du texte. On peut dire qu'il y a trois types d'offrandes. Il y a les holocaustes. Pour faire vite, vous prenez un taureau, vous l'égorgez et vous le faites brûler en entier. Donc, holocauste. Ensuite, il y a donc par exemple les shelamim, les sacrifices d'action de grâce ou les pacifiques. Prenez un animal, vous l'égorgez, et puis vous découpez des morceaux, certains que vous gardez et que vous allez manger, et d'autres que vous allez faire brûler. Et ce que vous faites brûler, c'est essentiellement les abats, en fait. Et l'idée, c'est qu'il y a une partie qui va pour vous et le prêtre, et l'autre partie, ce qui est brûlé, va pour Dieu. Et puis, il y a un troisième type d'offrande, qui sont des offrandes végétales, et ça, on en reparlera justement par rapport à la scène, et ce sont en fait celles qui ont le plus de valeur. Il ne faut pas croire que ce soit les holocaustes, c'est en fait les sacrifices végétaux qui ont le plus de valeur, parce que ce sont les sacrifices qui correspondent à l'idéal végétalien du début de la Genèse, hein, où on ne fait pas couler le sang. Voilà. Et on verra que c'est utilisé justement pour l'intronisation du grand prêtre. Donc, à quoi servent les sacrifices dans le Lévitique ? Contrairement à l'idée reçue, les sacrifices ne servent pas à amadouer la divinité, ne servent pas à apaiser une divinité qui serait courroucée contre l'homme. Les sacrifices ne servent pas non plus à pardonner ceux qui auraient commis quelques fautes. Quand on regarde les rituels, notamment dans le livre du Lévitique, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais ça vaut le coup de les lire pour éviter de raconter n'importe quoi à leur sujet. C'est parce que le pardon a été donné, par exemple, que l'on peut faire un sacrifice. Et ce sacrifice va être en fait le rituel de rétablissement du lien qui a été rompu. C'est-à-dire que ce sont des rites qu'on va appeler des rites de commensalité, le fait de pouvoir manger avec. Quand vous faites un sacrifice, en fait, c'est que vous préparez un repas. L'idée, ce n'est pas de faire couler le sang, de décharger votre violence, etc. C'est de faire un repas. Et la forme la plus haute, la plus noble du repas, c'est en fait d'inviter quelqu'un, de lui servir à manger, sans manger avec lui. C'est la forme la plus déférente. Et donc l'Holocauste, c'est ça. Et donc l'Holocauste est destiné à rétablir une relation qui a pu être détériorée par quelques fautes, par quelques maladies que ce soit, ou par quelques sentiments de culpabilité. Mais ce n'est pas le sacrifice qui permet de pardonner, etc. Ça atteste que cela a eu lieu. C'est comme le baptême. En théologie protestante, le baptême ne fait pas du baptisé un enfant de Dieu. Le baptême atteste que le baptisé est enfant de Dieu. Le baptême, en quelque sorte, a une fonction de sceau, ça atteste, mais ça ne change pas la nature de la personne. Ça, c'est témoin d'une scène qui s'est déjà jouée avant. Et le sacrifice, c'est cela. C'est clair ? Pourquoi ?
Okay. Bien. La seconde sorte de sacrifice, vous l'appelez comment ? C'est mon partage ?
Shelamim, c'est ça, par exemple. C'est souvent traduit par action de grâce.
Oui. Je comprends très bien, ça atteste d'un pardon qui a déjà été fait avant le sacrifice, du coup, mais enfin, il se manifeste comment ce pardon ? Comment est-ce qu'il peut au courant ? Enfin, je ne comprends pas, en fait.
Eh bien,
comment est-ce que... C'est quoi ?
Eh bien, par exemple, quand... je vais essayer de prendre une scène biblique. On va prendre David. David qui commet plein de choses affreuses, selon les textes bibliques. Et il commence par exemple par l'adultère avec Bethsabée. Il fait tuer Uri. Le prophète va le voir, lui raconte une petite histoire pour lui faire prendre conscience de la gravité de ce qu'il a fait, hein, puisqu'il a fait tuer Uri, le mari de Bethsabée, pour couvrir l'adultère qui avait provoqué la grossesse de Bethsabée. Et en fait, le pardon se fait de deux manières. À la fois, il y a une repentance de David, hein, il y a cette prière qui est en quelque sorte formalisée par le psaume 51, où voilà, il regrette ce qu'il a fait, et le fait qu'il y a un rétablissement de l'alliance, c'est-à-dire qu'il y a une parole de pardon, une parole de grâce qui lui est prononcée. Mais il n'y a pas eu un rituel qui ait permis le rétablissement. Le rituel va venir après. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus, plus tard, dira « Si tu as quelque chose contre ton frère, eh bien, va régler le différend avec lui avant de porter ton offrande au temple. » Ce n'est pas l'activité cultuelle, ritualisée, qui permet de rétablir les relations, c'est la responsabilité personnelle qui le permet, et ensuite c'est scellé, célébré par le rituel.
Dans le cas de David, après le sacrifice, l'enfant meurt.
L'enfant meurt, mais l'enfant ne meurt pas à cause de la pratique de David, en fait. Vous aviez compris que...
C'est une punition,
oui. Oui, mais ce n'est pas considéré comme le résultat du sacrifice ou du non-sacrifice.
Je veux dire que la faute n'a pas été complètement résolue tant qu'il n'y a pas eu la mort de l'enfant.
Alors, il faudrait, un, considérer que l'enfant est bien né, mais ce que dit le texte, c'est que pour que l'histoire de David soit féconde et s'inscrive dans le temps, il faut que ce soit le fruit de la justice et non de l'injustice. Donc, ses enfants et plus tard, enfin, cet enfant et plus tard Salomon, qui va lui succéder, sont des figures de naissance dans deux terrains différents. C'est en fait des figures types pour nous aider à penser ce que produisent des actions qui sont, dès le départ, marquées par le sceau de l'injustice ou le sceau de la justice. C'est, en quelque sorte, des caricatures pour nous montrer comment nos actes ont des conséquences. Mais il y a aussi d'autres textes qui montrent que des situations qui sont mal engagées peuvent ensuite être rétablies parce qu'elles sont réorientées. Mais si on ne réoriente pas une situation mal engagée, alors dans ce cas-là, inéluctablement, ça va se casser la figure, en quelque sorte, pour le dire aussi simplement que possible. Ensuite, le verset 6. Moïse prend moitié du sang et il le pose dans des bassins, et moitié du sang, et il asperge sur l'autel.
Alors, il est parfait. Qu'est-ce qu'il fait avec le sang dans les bassins? Il va faire boudin blanc.
Boudin noir. Pas boudin noir plutôt.
Mais on n'a pas le droit de manger de sang.
Alors, on n'a pas le droit de manger de sang parce que le sang, c'est le symbole de la vie. Le texte ne va pas préciser ce qu'il fait du sang dans les bassins. Donc on ne peut que conjecturer. Certainement pas donc le cuisiner. On peut imaginer qu'en fait, c'est une manière de dire que tout le sang ne va pas sur l'autel. C'est-à-dire que c'est pour éviter l'idée de totalité. Mais c'est vraiment de la conjecture. Donc l'hypothèse, c'est que ce qui va sur l'autel, ça va à Dieu. Et donc, il y a une part de la vie qui est élevée, mais aussi une part qui doit rester sur terre, parce que c'est ça qui fait qu'il y a de la vie. C'est une idée selon laquelle il ne faut pas rester hors sol. Et vous avez peut-être une autre idée.
Non, je pense me souvenir que dans les autres textes, les descriptions culturelles, c'est le grand prêtre qui le répandit sur le peuple.
Si. Si, on le trouve ici.
Sur l'autel.
Non, non, vous allez voir. C'est sur le peuple. C'est métaphorisé.
Ah oui, bon.
Ah, après. Oui, ouais, vous allez voir. Ah ouais.
C'est ça.
Oui, c'est en ce sens qu'il faut qu'une partie reste sur terre, sur les personnes qui vont pouvoir produire de la vie. On va voir ça. Donc, verset 7. Il prend le livre de l'Alliance qui n'existe pas. Il le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous écouterons. Plus que nous obéirons, c'est nous écouterons. Si on veut prendre ça à la lettre. Et cette fois, Moïse prend le sang, il l'éparpille sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc pour ceux qui sont familiers du récit d'institution de la scène, il y a quand même quelques mots clés qui sont communs, hein, le sang de l'Alliance. Et alors, on peut faire une hypothèse assez vraisemblable, qui est que le prêtre, enfin en l'occurrence Moïse, n'asperge pas le sang sur les personnes physiques, mais sur les pierres qui représente le peuple. Il y a 12 pierres pour les 12 tribus, et on peut imaginer que le rituel, au sens historique du terme, c'est d'asperger les pierres, plutôt que d'asperger les personnes. Bon, les pierres qui représentent le peuple, et donc on dit que c'est le peuple. Si c'était les personnes, là c'est vraiment une conjoncture aussi, une conjecture, on aurait dit il asperge les fils d'Israël, pour parler des individus. Et là c'est pas les Bnei Israël, c'est vraiment Aham. Aham qui ne nie pas l'individualité, hein, c'est la dimension familiale par opposition à la nation qui est la dimension politique. Mais tout à l'heure on avait entendu, le peuple répond d'une seule voix, donc il y a une unicité qui est quand même envisagée.
Pourquoi est-ce qu'on trouve ce pronom justement dans verset 7 le font et puis ils écoutent. Inversement.
Oui. Oui, on pourrait se dire on commence par écouter et ensuite on agit.
Mm-hmm. Normalement.
Ouais.
On ne peut pas faire ce qu'on n'a pas entendu.
Eh bien, en fait, le judaïsme dit l'inverse. Mm-hmm. Le judaïsme dit commence par accomplir le rituel et ensuite tu donneras du sens à ce que tu fais. Mm-hmm. C'est une pédagogie entre dans cette tradition qui a fait ses preuves, et tu comprendras ultérieurement ce que cela peut signifier. Et on le voit, par exemple, quand il est question des pierres prises dans le lit du Jourdain ou déposées dans le lit du Jourdain en Josué. On commence par poser les pierres, et puis quand vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, donc la réflexion et le sens viennent après. On commence par agir. Et ensuite, on produit du sens. Il y a une interprétation ultérieure. Alors peut-être que ça correspond à cette pédagogie-là. L'autre hypothèse, c'est que c'est un récit d'institution, et donc il s'agit d'instituer cela dans le temps. Et l'écoute, c'est ce qui permet de faire durer la grâce du moment. Beaucoup d'hypothèses, tout ça. Mais le texte sert à nous faire réfléchir à des hypothèses, oui. Parce que vous ne l'avez jamais eu entre les mains. Bon. Il y a quelques livres comme ça, le livre des guerres de Yahvé, par exemple, ou le livre des guerres de l'Éternel. Il n'existe pas au sens où, en tout cas, on ne l'a pas retrouvé. Et il n'existe peut-être pas au sens d'un livre tel quel. En revanche, on peut se dire, le livre d'Alliance, ça correspond à ce livre qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire que le livre de l'Alliance, ça pourrait être Exode à partir du chapitre 20, par exemple. peut-être même à la fin de 19. Certains d'ailleurs l'ont envisagé, qu'au sein de ce livre de l'Exode, il y ait ce livre de l'Alliance, parce que ça raconte comment Dieu fait alliance avec le peuple et comment cette alliance va s'inscrire dans le temps, justement avec tout ce qui va suivre. Et tout ce qui va suivre, c'est comment vous allez construire le temple et comment est-ce que vous allez organiser le culte au temple.
Est-ce que ce n'est pas tout simplement les paroles de l'Éternel qui viennent écrire sur les pierres, sur la terre, c'était tout simplement ça?
Oui, peut-être. Ouais. Sauf que les paroles de l'Éternel, ce n'est pas tout à fait simple. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va... Enfin, si on se met à la place... Déjà, imaginons que Moïse soit un personnage historique.
Ouais.
Déjà, bon. Bon, à supposer qu'il le fût, mettons-nous à sa place, qu'est-ce qu'il a vu ou entendu? Bien. Donc, continuons et on va entendre quelque chose de l'expérience du sacré. Donc, on en est au verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Donc ça correspond à l'ordre du verset 1. Alors là, accrochez-vous bien. Le verset 10 est quand même un verset assez hérétique. Ils virent Dieu. Le verbe ra, classique. Ils virent Dieu d'Israël sous ses pieds comme un travail de saphir, disons transparent ou blanc en diaphane, comme le ciel, comme de substance de cieux purs. Etsem, c'est l'os, c'est la substance. Bon. Ils virent Dieu, je veux dire, rien que ça n'existe pas en fait. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas en théologie biblique, qui dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et ça, c'est pas une invention de ma part. En Exode 33, verset 20, un peu plus loin, hein, c'est ce qui est dit. Donc, c'est pas simplement une idée. Exode 33, c'est le moment où Moïse a vraiment fait ce qu'il fallait auprès de Dieu. Il considère que maintenant, il a le droit de voir sa gloire, c'est-à-dire de le voir lui-même. Ce qui est un peu étonnant, puisqu'il est censé l'avoir déjà vu ici. Et la réponse, c'est, eh bien, tu te mettrais dans une anfractuosité du rocher, je poserai ma main sur ton visage, je passerai, je te retirerai ma main, et tu verras mes arrières. Et c'est là qu'on a, à nouveau, 10 paroles. Et donc, on peut considérer que le dos de Dieu, c'est les 10 paroles. Bon. Ici, ils virent Dieu. C'est pas simplement Moïse, hein, c'est tout le monde. Et on voit, enfin on voit pas très bien, mais on comprend, qu'il y a donc un rapport avec les cieux, qu'il y a une sorte de vision où Dieu est au-delà de, au-delà du terrestre. Alors, le verset 11 est important parce qu'il précise... donc il n'a pas étendu sa main vers les chefs des fils d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. C'est pas tout, ils auraient très bien pu voir Dieu et mourir. Mais non. Non seulement ils le voient, mais en plus ils ne sont pas punis. Et en plus, on répète qu'ils le voient et cette fois, c'est avec le verbe « hadza ». Ils mangèrent et ils burent. Ce qui n'est pas sans rappeler aussi la célébration de la scène. Je vous en remets une petite.
Ça, il n'y a pas beaucoup émotionné, hein. S'ils vont encore faim après avoir
vu Dieu, ça leur a peut-être donné l'appétit.
C'est ce que j'allais dire. Et si la vision de Dieu était ce qui nous met en appétit, plutôt que de nous écœurer? Alors, oui, de toute façon, on est face à une scène où il y a de quoi rester sans voix. Ouais. Mais on va essayer quand même de mettre quelques mots là-dessus. notamment dans la perspective, et alors la parole de l'Éternel qu'on mettrait dans le livre de l'Alliance, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien. Donc, on est dans une, ce qu'on appelle une théophanie. Théophanie, c'est quand Dieu paraît, hein, Dieu est visible. Et ici, non seulement il est visible, mais il le voit. Et alors, qu'est-ce qui rend possible cette vision? Eh bien, au sens strict du terme, c'est la commensalité, justement. C'est-à-dire que c'est à l'occasion d'un moment où les personnes qui sont présentes sont capables d'organiser un repas, de manger et de boire, que Dieu, le divin, est présent. Je veux dire par là que la vision n'est pas conditionnée par quelques critères dogmatiques que ce soit. L'expérience du sacré se fait ici dans l'un des actes les plus ordinaires de la vie quotidienne qui soit. Et c'est peut-être d'ailleurs cela qui est étonnant mais aussi intéressant, c'est que ce qui permet un accès total au divin, c'est-à-dire même par les sens, c'est une expérience la plus banale qui soit, mais aussi qui engage différentes personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience solitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas Moïse seul qui voit le divin. Moïse seul ne verra pas le divin en Exode 33. Mais parce qu'il y a plusieurs personnes, le divin est visible. C'est parce que 2, 3, 74 sont réunis que le divin devient visible. Alors, c'est un pur anachronisme de ma part, mais il y a beaucoup de philosophes du courant personnaliste qui iraient dans cette perspective-là, où le visage de l'autre est une épiphanie. C'est-à-dire que c'est le visage de l'autre qui révèle à la fois de l'altérité et puis à la fois ce que je suis. En quelque sorte, le visage de l'autre qui se lève devant moi me permet de lever mon propre visage, donc dans une interaction positive. Je peux avoir accès à mon identité.
Un peu
Lévinas. Oui, c'est ça, Lévinas, Ricoeur. Voilà.
C'est bien loin de nos pères du désert, non loin du Moyen-Âge, qui s'affamaient.
Alors, il y a des moines du Moyen-Âge qui ne s'affamaient pas et qui ne vivaient pas seuls, reclus. Mais à mon avis, c'est effectivement tout à fait contraire à l'expérience des pères du désert, qui avaient d'abord comme projet de se purifier. Ce qu'on retrouve dans beaucoup de courants spirituels, et notamment de la mystique, c'est commencer par se débarrasser de l'orgueil. Toute démarche spirituelle commence par plusieurs semaines pour se débarrasser de l'orgueil. Les exercices ignatiens, par exemple, commencent comme cela et ce ne sont pas les moins intéressants. Ici, on a, du coup, ça rejoint d'ailleurs la remarque sur les Matzebot, c'est que nous avons cette conviction que pour devenir un être spirituel, il faut au contraire se frotter les uns aux autres pour qu'il puisse y avoir le maximum de puissance divine qui se propage dans notre univers personnel. C'est-à-dire que on ne combat pas le mal par le mal, on combat le mal par un bien supérieur. Et donc l'expérience du sacré ne se fait pas d'abord par une kénose, elle se fait par une fréquentation de l'intimité la plus grande qui soit de ce qui peut provoquer la présence du divin. Et ce qui peut provoquer la présence du divin, c'est la présence de l'autre, dans cette perspective. On peut aussi le comprendre autrement, oui. Évidemment. On peut le comprendre comme une caricature. C'est-à-dire que le clergé bénéficie d'une expérience particulière. et que du coup le clergé est dépositaire d'une nature différente qui lui permet d'avoir accès au sacré, ce que ne peut pas avoir le commun des mortels. Mais ici, les 70 anciens ne sont pas tous prêtres. Il y a des prêtres parmi eux, et puis il y a le reste du peuple. Donc on a, non pas une caricature, mais une approche plutôt démocratique, en fait, hein, au sens où tout un chacun, pour peu qu'il soit d'accord et développe les qualités pour cela, peut accéder à ce qu'il y a de plus recommandable. Ouais, il dit deux ou trois. Deux, c'est le début de l'altérité. Deux ou trois sont réunis en mon nom. En fait, ça correspond justement à la loi sur l'autel. Hein, toujours cette loi sur l'autel dans le livre de l'Exode, qui finit par le fait que partout où je prononcerai mon nom, je serai présent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on construit un autel et qu'on fait un sacrifice qu'on fait venir Dieu. C'est parce que Dieu décide d'être présent qu'il est effectivement présent. Si on le dit dans des termes moins anthropomorphiques, ce n'est pas l'individu qui peut provoquer le moment du divin, c'est parce qu'il y a au moins deux ou trois personnes que le divin peut être présent. Donc le divin ne dépend pas de ma bonne volonté seule, il dépend aussi de la volonté de l'autre et de la présence de l'autre.
C'est un texte, moi je le découvre complètement.
Oui.
Je suis peut-être meilleure, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu.
C'est pour ça que je vous le fais lire. Parce que moi je le trouve assez fondamental. Il est assez fondamental par rapport à une théologie un peu subversive quand même. Vous voyez, l'idée que la commensalité, c'est ce qui provoque le divin. Et là, on partage quelques biscuits, quelques verres de café, de thé, de coca. Est-ce qu'on n'est pas plus proche du royaume que quand on est seul, enfermé dans son obsession intérieure au milieu d'une bibliothèque avec des textes réputés pour être sacrés, mais qui en fait nous éloignent quand même du visage de l'autre. L'autre avec tout ce qu'il est, avec sa beauté et sa laideur, mais avec sa vérité aussi, et avec ses potentialités. Tout à l'heure, on parlait de la question du sang dans les bassins. C'est-à-dire que c'est à la condition qu'il y ait quand même du sang là, animé qui passe dans nos veines, etc., que des choses sont possibles. C'est-à-dire que la vraie potentialité, elle est plus là dans nous tous, qui ne sommes pas le gratin de l'humanité, hein, pourtant. Et en fait, on vaut beaucoup plus que n'importe quel personnage de fiction, à la condition de nous mettre aussi à l'école de ces personnages de fiction. C'est-à-dire que si je reprends, comment ça s'appelle, Bachelard dans la préface justement du bouquin de Buber, Je tue, c'est à la condition qu'on engage un petit peu quelque chose de nous-mêmes, de notre intimité, qu'on peut avoir cette interaction qui confine au divin. Et là, c'est bien parce qu'ils engagent quelque chose d'eux-mêmes, hein, ils s'engagent, ils montent. Hein. L'idée, c'est bien de monter sur la montagne. Donc il y a une sorte d'élévation, une élévation commune. Donc on en est au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, donc monte vers moi sur la montagne, donc c'est toujours sacrifie vers moi sur la montagne, il y a une sorte de sacrifice total, le sacrifice en termes de don, et pas en termes de je sacrifie la mère pour sauver l'enfant, ou je ne sais quoi, vous voyez. Et demeure. Soit là. Et je donnerai les tables de pierre et la loi et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Là, négligemment, vous avez l'institution de la Torah. Hein, puisque pour leur instruction, ou pour les instruire, c'est le verbe yara, yara qui donne Torah. Je vous le mets quand même parce que c'est un mot un peu important. Donc, yara, c'est instruire. Et puis, le mot qui donne donc la Torah que vous connaissez, c'est comme ça. Torah. Torah, Torah. Disaient les autres. Donc, qu'est-ce que la Torah? C'est une sorte voilà, de parole faite pour instruire, éduquer, élever. Moïse se leva avec Josué. Oui, bien sûr.
Ce que m'étonne ici, c'est qu'on a les tables de pierre,
oui.
Le substrat matériel. Bon. La Torah, ce qu'elle est écrite sur, bon, tout va bien. Et Hamitzvah. Le commandement, mm-hmm. L'ordonnance, ici traduit en pluriel, mais le pluriel n'est pas là dans l'hébreu. Et c'est ça qui est bizarre, parce que normalement, on voit plutôt au pluriel. Et ça donnerait le sens. Alors, on a le substrat matériel, la loi pensée dans son intégralité, et puis les commandements spécifiques, les ordonnances. Bon, mais comme ça, c'est comme il y a la loi et puis l'ordonnance aussi. C'est pas clair qu'est-ce que ça ajoute de dire mitzvah ici.
Alors, le pluriel en fait, c'est une contamination des 613 mitzvot qui ont été élaborées par la tradition juive et qui sont. En fait, le rassemblement de tous les ordres que l'on trouve dans la Bible hébraïque. Et au commencement, je pense que mitzvah désigne la possibilité de l'ordre. C'est-à-dire que si on essaie de distinguer les différents termes Torah et mitzvah. Mitzvah, je pense que c'est l'ordre contextuel, c'est-à-dire que c'est la maxime par opposition à la loi. La maxime, c'est-à-dire Dieu qui ordonne à Josué de faire ceci ou de faire cela pour passer une étape. Il leur ordonna de se lever de bon matin. Bon, c'est avant tout une maxime. Après, ça sera porté en loi universelle quand ce sera spiritualisé, en quelque sorte. Donc, c'est peut-être une façon de dire, vous voyez, si on prenait les lettres de Paul, on pourrait se dire, lettres de Paul, c'est d'abord de la mitzvah. Il écrit à une communauté particulière pour régler un problème qui n'appartient qu'à cette communauté. Et ce commandement, cet ordre particulier, on peut en faire un commandement, mais à la condition de pouvoir retrouver l'esprit de cet ordre initial. Et si on retrouve l'esprit sans être condamné par la lettre, alors on peut l'utiliser dans d'autres situations, en restant fidèle à l'essence de cette parole. C'est comme cela que je le comprendrais. La Torah, dans le livre des Proverbes, elle est comprise comme la parole de la mère. Mon fils, il faut que tu écoutes la Torah de ta mère, parce que c'est la parole qui fait vivre. Et c'est une parole qui n'est pas simplement une parole situationnelle, mais c'est ce qui te permet de pouvoir mettre un pied dans la grande histoire. Voilà, je pense qu'il y a cette idée-là. Et puis, vous avez vu, on retrouve la table de pierre avec Eben, qui, contrairement aux faux amis, n'est pas du bois, mais de la pierre. En hébreu. Donc, Moïse se leva avec Josué et son serviteur. Moïse monta sur la montagne. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. » Alors ça, c'est amusant, parce que c'est un peu ce que dit Abraham au moment de sacrifier son fils. Il laisse les deux serviteurs. Voilà, attendez-nous. On verra bien ce qui va se passer. Et on va voir qu'il va y avoir une autre convocation d'un texte de la Genèse. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Donc là, on continue à instituer. C'est-à-dire que Aaron et Hur sont réputés pour être, en quelque sorte, les magistrats. C'est eux qui vont régler les problèmes, s'il y a lieu. Moïse monta sur la montagne, Josué, on n'en parle plus. Et la nuée couvrit la montagne. Donc la nuée, on la connaît, c'est celle qui accompagne le peuple hébreu dans le désert. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et en fait, les 7 jours préliminaires, les 40 jours et les 40 nuits, ça vous fait penser. Ouais, mais 7 jours plus 40 jours plus 40 nuits. Nous sommes en plein déluge. C'est Genèse 7, verset 4. Il y a 7 jours qui préparent les 40 jours de déluge. Et qu'est-ce que le déluge? Sinon, le fait que Noé et sa famille vont rentrer dans l'Arche d'Alliance, Arche d'Alliance dont les mesures peuvent être calculées à partir de la valeur des lettres du nom de Dieu, du tétragramme qu'on avait vu tout à l'heure. Donc quand on les associe, ça permet de retrouver à la fois la longueur, la largeur, la hauteur de l'arche et le nombre de jours qu'aura duré le déluge. En soi, ça ne nous apprend rien. Sinon que rentrer dans l'arche, c'est en fait rentrer dans le nom de Dieu. Et c'est ce que fait Moïse ici. Il rentre dans la nuée. Et à quoi servait de rentrer dans l'arche? Ça servait à trouver l'équipement pour lutter contre la violence qui se généralisait. Et là, à quoi sert de rentrer dans la nuée? C'est de trouver l'équipement qui va nous permettre de pouvoir nous inscrire dans la durée.
En fait, il rentre pas dans la nuée, il monte sur la montagne, et puis la nuée couvre dans la montagne.
Verset 18. Voyabo Moshe Betor Hanan. Donc Moïse.
Oui, à 15, il vient sur lui.
18, il rentre dedans véritablement, comme d'autres sont rentrés dans l'arche. Donc, rentrés au cœur même du divin. Ce qui, évidemment, suppose une dématérialisation du divin. Moïse demeura donc sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Oui, bien sûr, ça peut vous faire penser à l'expérience de Jésus dans le désert, qui en fait s'enracine sur cette expérience-là. Et du coup, le désert de Jésus, c'est pas tant le fait de l'aridité que le fait qu'il y a un Sinaï. C'est-à-dire que le désert est le lieu du Sinaï. Le désert n'est pas le lieu... enfin oui, bien sûr, c'est un peu le lieu de la solitude, mais c'est le lieu où le divin peut se rencontrer. Comme Moïse, autrefois, se promenait dans le désert et voit un buisson ardent. L'aspect de la gloire de l'Éternel, comme un feu, cette fois il est dévorant. Alors qu'il n'était pas dévorant en Exode 3. C'est le même terme, manger. le buisson ardent ne dévore pas, alors qu'ici, ça dévore.
Mais d'un côté, pas de buisson. Il semble dévorer au-dessus d'une peuple d'Israël, qui n'est pas forcément la même chose, parce que Moïse n'est pas consumé.
Absolument.
Le peuple en a peur, parce que on attend, est-ce qu'il va revenir ou non, pour mieux construire l'autre solution.
Ouais. D'autant que, par ailleurs, il y a une théophanie au Sinaï où on parle d'éclairs et de tonnerres. Et bien sûr, on se dit, quand Dieu est présent, il y a le tonnerre, les éclairs, etc. Et c'est intéressant de le lire en parallèle avec le premier livre des Rois au chapitre 19, quand le prophète Élie a une vision du divin et où il est clairement dit qu'il y a les tremblements de terre, le grand vent, le feu qui passe. Mais Dieu n'est jamais dans tous ces éléments. Il est dans la voix de fin silence qui succède et qui s'adresse à Élie pour lui donner une mission qui va permettre de restaurer la justice au sein du peuple. Et pour finir sur une note un petit peu légère, je trouve qu'il y a une très belle théophanie très subtile qui se trouve dans Forrest Gump. C'est un film culte qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. À un moment donné, il y a une fille qui va pour se suicider. Forrest Gump, c'est avec Tom Hanks. C'est une très belle. Ça vaut bien la double vie de Walter Mitty. Et alors, c'est une fille qui va pour se suicider. Elle est sur le rebord de la fenêtre. Et puis, cinématographiquement, c'est assez bien rendu. Il y a juste une petite brise. Et puis, on voit ses cheveux qui bougent un peu comme ça. Et elle ne meurt pas. Voilà. Non, mais il faut que je laisse un peu de suspense aussi. Donc, vous voyez, ce récit d'alliance, je trouve, est extrêmement subversif et donc intéressant parce qu'il a tendance à bouger les lignes. C'est-à-dire que on a l'idée d'une alliance où il faut en passer par un clergé. Et ici, il n'y a pas que le clergé qui est au bénéfice de l'alliance et au bénéfice même du point initial de l'alliance. Une alliance qui, en fait, est une présence divine qui s'éprouve dans l'ordinaire de notre vie. Ce qui pourra faire dire à quelques théologiens que finalement, le divin, c'est le monde entier... C'est-à-dire qui se réalise. Comment vous parlez du panenthéisme? Le panenthéisme, ce serait... je sais pas, j'ai pas assez mangé, je pense. Pas assez mangé et bu. Ouais, très bien. Non, je vais essayer de me concentrer un peu, mais en plus, je suis sûr que vous avez tous plein d'idées en la matière, et j'en connais quelques-uns qui pourraient le faire. Mais ce serait considérer que lorsque les éléments qui constituent le monde, aussi bien animal que végétal que minéral, accomplissent leur vocation ou foncent, raisonner en termes de potentialité, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a du divin. C'est-à-dire que le divin, c'est du coup la création lorsqu'elle atteint son point de réalisation, en quelque sorte. Le divin, une manière de désigner l'univers qui s'auto-réalise, qui s'accomplit, qui n'en reste pas à l'état, qui... c'est plein à pouvoir trouver la suite, quoi. Voilà. En tous les cas, c'est une figure du divin qui n'est pas le tout autre. Ça, c'est une figure classique en théologie chrétienne. Ici, le divin, ce n'est pas le tout autre. On pourrait dire c'est l'autre semblable, c'est celui qui nous rend présent, c'est une façon de reprendre les images du divin qui se jouent ici. en instituant des figures et des institutions qui permettront la transmission de cette expérience-là. On met en place des éléments qui vont pouvoir permettre de véhiculer cette compréhension du sacré. Voilà. C'est en ce sens que on a un récit d'alliance qui n'est pas simplement un contrat entre deux personnes, mais qui est une façon de pouvoir inscrire un peuple dans quelque chose qui va pouvoir faire histoire.